Paul de Musset, La chèvre jaune. Chapitre 1er. On fit en Sicile une grande consommation de lait de chèvre. Tous les matins, quantité de troupeaux descendent des montagnes et parcourent les villes en distribuant le lait de maison en maison. Le dormeur, réveillé par le son joyeux des clochettes, ouvre sa fenêtre et s'amuse à regarder ces escadrons de nourrices qui apportent dans leurs mamelles le remède des poitrines malades et le déjeuner des enfants sevrés. Les chèvres possèdent la mémoire spéciale des localités. Le troupeau s'arrête avec un instinct merveilleux devant chaque porte où il y a un chaland, et la nourrice, chargée d'alimenter la maison, se détache aussitôt de la bande pour venir se faire traire avec un air soumis et grave, comme si elle comprenait l'importance de ses fonctions. Les chevriers, n'ayant pas de coups à donner ni de cris à pousser comme les conducteurs de bœufs, sont des gens d'humeur douce, qui gagnent leur vie sans beaucoup de fatigue, finissent leur journée de bonne heure et vivent plutôt en associé qu'en maître avec leur compagne cornue. En 1842, il y avait dans la pauvre ville de Syracuse un petit chevrier âgé de 16 ans qu'on appelait Ciccio par diminutif de Francesco. Il conduisait 6 mères chèvres et comme chacune lui fournissait 3 verres de lait à un grano, il gagnait 18 grani par jour, c'est-à-dire à peu près 15 sous de France. C'eût été un fort gros revenu si ces pratiques l'eussent payé exactement. Mais il fallait faire crédit, sous peine de ne rien vendre. Et le numéraire étant rare, en Sicile, un bon tiers des consommateurs remettait le paiement de semaine en semaine. Ajoutez à ces banqueroutes l'obligation où était Ciccio de nourrir sa vieille mère, et vous comprendrez pourquoi il n'était pas vêtu comme un prince et ne mangeait point d'ortolan. Habitué au régime sobre de la montagne, le petit chevrier mordait avec appétit dans un morceau de pain assaisonné d'un oignon. Son costume se composait d'un pantalon de toile si court des jambes qu'on pouvait à la rigueur l'appeler culotte, et d'une veste qu'il portait pliée sur l'épaule en manière de manteau à l'espagnol. Ses chaussures étaient 2 semelles en peau de buffle attachées par des ficelles, et son unique coiffure, la forêt de cheveux noirs que la nature lui avait donnée. Avec si peu de recherche dans sa mise, Ciccio plaisait cependant à cause de sa bonne mine, car il descendait d'une race moitié grecque et moitié normande, renommée pour sa beauté. Quand il s'arrêtait sur le seuil d'une porte à causer avec quelques femmes de chambre, il s'appuyait du coude sur la muraille en croisant ses jambes comme le joueur de flûte antique, et ses attitudes offraient cette grâce naturelle dont les arts cherchent sans cesse l'imitation. Sans aucune éducation, Ciccio savait un peu par ouï dire l'histoire de son pays, et logeait pêle-mêle dans les magasins déserts de sa mémoire les noms du siècle du Hiéron, les récits des marins de Catane, ceux des paysans, du Mont Rosso et les instructions paternelles de son curé. Il était heureux, sans désir et sans souci. Le choléra de 1837 lui avait enlevé son père, et depuis ce jour il avait accepté, quoiqu'enfant, les charges et le travail d'un homme. Avant l'aurore, il appelait ses chèvres et descendait du hameau de Floridia pour aller vendre son lait à Syracuse. Les fillettes alertes qu'il rencontrait l'agaçaient souvent au passage. « Qu'est-ce que tu me rapporteras de la ville ?» lui criait-on. « Ben, je te rapporterai des nouvelles de l'amphithéâtre et je te dirai les soldats de Naples gardent toujours la porte. » Don Ciccio, disait une autre plus hardie, quand donc commenceras-tu à faire ton lit de noces? Oh, quand j'aurai usé autant de nattes de jonc que ta dent de sagesse! Et il poursuivait son chemin, sans regarder à droite ni à gauche. Ciccio avait une amie. C'était une petite chèvre jaune qui se prélassait en marchant comme si elle eût porté des souliers de satin. Elle s'appelait Jetta, c'est-à-dire Marguerite. Jetta aimait passionnément son jeune maître. Tantôt elle le suivait comme un chien, tantôt elle prenait les devants au galop comme si elle eût voulu fuir bien loin, puis elle s'arrêtait pour attendre son ami. Elle jouait avec les chevreaux et respectait les nourrices, mais elle n'avait pas encore voulu des embarras de la maternité. Cette position exceptionnelle dans une société où tout le monde avait des devoirs à remplir n'eût pas convenu à tous les chevriers de la montagne. C'était par une permission particulière du maître que Jetta n'était pas sollicité de renoncer à un état contraire aux intérêts de la maison. Touché, sans doute, de l'indulgence de Ciccio, qui ne voulait pas contraindre ses inclinations, elle payait en gentillesse et en gaieté l'écho plus sérieux et plus utile que fournissaient les autres chèvres. Aussi apprenait-elle à faire de jolis tours, comme de se dresser sur ses pieds de derrière ou de sauter par-dessus un bâton. Personne ne lui enviait sa position de favorite, tant il y avait de sagesse dans le troupeau. Ciccio avait des faiblesses marquées pour Jetta. Il cueillait pour elle des feuilles de vigne les plus vertes et lui peignait la crinière avec plus de soin qu'il l'en mettait à se coiffer lui-même. Peut-être cette tendresse réciproque était-elle cause à la fois de l'indifférence du petit chevrier pour les agaceries des jeunes filles et de l'éloignement de Jetta pour le mariage. Car le cœur n'est jamais plus en sûreté contre le trouble des passions que lorsqu'il trouve dans un sentiment doux et pur une occupation suffisante. Un jour de printemps, Ciccio descendait de la montagne pour aller vendre son lait et saluait le soleil levant à la façon des oiseaux en chantant à plein gosier. La pluie avait changé en torrent les ruisseaux qui se jettent dans la Napo. Un bourgeois de Syracuse, qui revenait de la campagne sur son âne, se trouva pris dans l'un de ces ruisseaux débordés et sans pouvoir avancer ni reculer. Avec l'entêtement et la patience qui caractérisent son espèce, l'âne, immobile au milieu de l'eau, recevait les coups sans broncher, bien décidé à attendre que le torrent se fût retiré. Le bourgeois, ayant brisé sa baguette sur le cou de la bête, ne savait plus quelle partie prendre, lorsqu'il aperçut au loin notre chevrier, suivi de son petit troupeau. Ciccio, entendant des cris de détresse, accourut au secours du voyageur malheureux. Il releva son pantalon au-dessus des genoux et vint prendre l'âne par la bride pour l'obliger à passer le torrent, après quoi le signor et le chevrier se mirent à causer ensemble tout en cheminant. Mastandré, c'était le nom du bourgeois, exerçait à Syracuse la profession de notaire. Sa charge lui rapportait par année 4000 taris, c'est-à-dire 1800 livres. Aussi avait-il maison de ville, maison de campagne et boutique dans la rue Manstranza. Il avait en outre deux servantes à ses gages, deux clercs mal payés, plus un âne en toute propriété. D'ailleurs, au large chapeau de paille qui couvrait son énorme tête, à son ventre proéminent qui sortait de son manteau, à ses jambes courtes, à ses souliers de castor, à son air majestueux, On le reconnaissait à 50 pas de distance pour un homme riche et bien nourri. Puisque la Madone, disait Ciccio, m'a procuré l'honneur de servir votre seigneurie, ce ne doit pas être sans dessein. Votre seigneurie a certainement une femme et des enfants, et l'on voit bien qu'elle est un heureux père. Je suis un heureux père, en effet, répondit Mastandré, car ma fille est la plus belle et la plus sage créature qui ait jamais porté le nom d'Angélica. Mais pour le reste, tu as deviné tout de travers, puisque ma femme est morte. Oh, c'est un grand malheur. Votre seigneurie a dû éprouver beaucoup de chagrin de cette mort, et la belle Angélica aura versé bien des larmes. Le chagrin et les larmes font du mal. Il faut boire du lait de chèvre, Excellence. Si je le voulais, je pourrais boire du lait de chèvre et même du vin. Mais le matin, j'ai l'habitude de prendre du café avant d'entrer dans ma boutique où m'attendent mes clercs. Votre seigneurie doit avoir un bel état. Bon, le premier de tous, je suis notaire. Excusez mon ignorance, je ne sais pas ce que c'est. Un notaire est un officier public qui dresse les contrats de mariage ou de vente et prête son ministère à certaines transactions entre les particuliers. Quant à ton ignorance, c'est un effet de ton peu d'éducation. Et de ma naissance obscure, seigneur notaire. Cependant, ma vieille mère m'a raconté bien des choses. Elle m'a dit que du temps du roi Hiéron, il existait 1,5 million d'habitants à Syracuse, où l'on en compte à peine 15 000 aujourd'hui. Je sais encore que dans ce vaste chaos de ruines sur lequel nous marchons, était jadis le palais du seigneur Jupiter et celui de la riche princesse Junon. Je sais que les Athéniens, sous la conduite du calife Almansor, ont ravagé 3 fois notre pays et brûlé la maison de la belle Diane malgré les prodiges de valeur du général Archimède et les prières de Saint Anacocle qui devait être un évêque fameux. C'est pourquoi je déteste les Napolitains, les Athéniens et généralement tous les orateurs de Mahomet. Oh, je crois que tu es dans l'erreur, répondit Mastandré. Le calife Almanzor commandait une armée de Sarrasins et non pas d'Athéniens. Quant aux gens de Naples, je ne pense pas qu'ils soient musulmans, puisque leur ville est sous la protection de Saint Janvier. Tu peux regretter néanmoins qu'il n'y ait plus, comme autrefois, 1,5 million d'habitants à Syracuse, car les notaires gagneraient bien plus d'argent. Et les chevriers vendraient mieux leur lait. Au lieu de mourir de faim, ils ne songeraient qu'à chanter et faire la bourre, comme du temps de Théocrite, ce gentil poète qui fréquentait les bergers. Et Ciccio se mit à réciter, en dialecte sicilien, quelques passages des idylles de Théocrite, et Mastandré ne s'aperçut point qu'il estropiait souvent les vers de la traduction. En devisant ainsi, le notaire et le chevrier arrivèrent au quartier d'Ortigia, triste et dernier reste de la magnifique Syracuse. Mastandré s'arrêta devant un café. Un garçon lui servit du café noir, qu'il but sans descendre de son âne, suivant la mode du pays. Il se rendit ensuite à sa maison de la rue Maestranza, sur le devant de laquelle était située sa boutique de notaire. Une table ronde couverte de papier, quelques rayons chargés de carton poudreux et 3 chaises de paille composaient tout le mobilier de cette boutique. Au-dessus de la porte vitrée, 2 énormes cornes de bœuf présentaient leurs pointes menaçantes, préservatifs nécessaires de la jettatura et de toutes les influences pernicieuses. Il était à peine 7 heures du matin, Et déjà, les clercs assidus feignaient de travailler sur leurs pupitres, fixés au mur par des crochets. La grande porte de la maison était ouverte, et Mastre André entra dans la cour, où un myrte centenaire couvrait de son ombre des résédas, des aloès et beaucoup d'orties. Une servante vint aider le patron à descendre de son âne et se mit à crier d'une voix glapissante « Gonjia, voici votre papa qui arrive de la campagne !» Aussitôt, une jeune fille pétulante s'élança dans les bras du vieux mastre André. Angelica, ou par diminutif Kanjia, était une de ces fleurs précoces que la force des climats méridionaux développe avec impatience. Sur son visage de 14 ans et dans ses yeux d'une grandeur démesurée, l'enfance et la puberté se disputaient encore. Sa taille haute et les lignes régulières de ses formes contrastait singulièrement avec la vivacité de ses mouvements. À sa peau brune et à la longueur d'un peu étrange de ses dents, on reconnaissait que 8 siècles n'avaient pas encore effacé en Sicile les traces du sang arabe. Comme si elle eût deviné les mœurs des femmes orientales, la belle Angelica aimait à cacher son visage dans les plis de sa mante noire, et quand elle allait à l'église, on l'aurait prise volontiers pour une héroïne de Dervis Moclès, courant à quelque aventure mystérieuse. Mastre André n'avait point remarqué que le petit chevrier l'avait suivi jusque dans la cour de la maison. Tandis que le bonhomme embrassait sa fille, Ciccio, ayant demandé un verre à la servante, traillait paisiblement une de ses chèvres. Il mit ensuite le verre plein de lait sur une assiette et l'offrit à la jeune fille, en prenant, sans y songer, une de ses poses de bas-relief antique. « Qui est ce garçon-là ? » dit la belle Kanjia en rougissant. « Bon, on n'a que faire de ton lait de chèvre !» s'écria le père. Mais Ciccio, avec son obstination sicilienne, gardait sa pose académique et continuait à présenter l'assiette d'un air impassible. « Signorina, disait-il, sans moi votre papa, au lieu de vous embrasser, serait encore à 7 heures dans les eaux débordées de la Napo. » Tout service mérite une récompense. Faites-moi la grâce de boire ce verre de lait. » La jeune fille prit le verre et le vida lentement en regardant le chevrier. De son côté, Ciccio tenait ses regards invariablement attachés au visage de la belle Kanjia, épiant avec une attention extrême les moindres jeux de cette physionomie mobile. On ne saurait imaginer jusqu'où peut aller le langage des yeux lorsqu'on n'a pas vu des Siciliens converser ainsi entre eux. C'est toute une science qui échappe à l'homme du Nord, dont les sens endormis n'ont qu'un vocabulaire borné. Entre 2 Siciliens, des étincelles semblent jaillir et porter d'une cervelle à l'autre des idées que nous ne pourrions exprimer sans le secours de la parole. Un meurtre, un vol, une fourberie sont proposés, acceptés et convenus tacitement par un clignement d'yeux à la barbe d'un étranger avant qu'il en ait le plus léger soupçon. Cette faculté du langage muet engendre en Sicile bien des petites conspirations et fait marcher en poste l'amour, cet éternel conspirateur. Mastre André, qui était du pays, remarqua des signes d'intelligence entre sa fille et le chevrier, mais il ne devina point ce qu'avaient rapidement échangé Ciccio et Kanjia. Comment pourrais-je savoir ce que s'étaient dit ces enfants si le regard intéressé d'un père ne l'avait pas compris ? Il est certain qu'une complicité soudaine s'était établie entre eux. Quant à leurs sentiments, il faut espérer que la suite de cette histoire les fera connaître. Chapitre 2. Tandis que la belle Angelica et le jeune chevrier conversaient ensemble par le regard, les sourcils courroucés de Master Dre avaient pris l'aspect effrayant d'une grosse accolade renversée. Le notaire tira de sa poche une pièce de 2 sous qu'il déposa dans la main de Ciccio en lui disant d'un ton brusque « Le service que tu m'as rendu et le verre de lait sont payés. Tu peux t'en aller. » « Je n'ai point envie de rester ici plus longtemps, » répondit Ciccio, « car mes pratiques m'attendent. Cependant, je ferai volontiers voir à la signorina quelques-unes des gentillesses de ma chèvre jaune. » « Au diable, la chèvre jaune, je me soucie fort peu de ses gentillesses. »«
C'est que vous ne la connaissez pas, » reprit le chevrier. « On vient de 4 lieues à Floridia pour la voir danser, et elle fait la joie du village. »«
Si tu ne sors, je vais te mettre à la porte, » interrompit Mastandré.
« Excellence, quand j'ai le bonheur d'acquérir une pratique nouvelle, je considère comme un devoir de lui donner une petite représentation gratis. Le spectacle curieux que je vais vous offrir ne vous coûtera rien. »
« Il faudra donc que je prenne un bâton pour te faire sortir. »
Comme s'il n'eût pas même entendu les menaces de Master André, Ciccio appela sa chèvre jaune par un cri guttural. La chèvre accourut en secouant ses cornes et se dressa sur ses pieds de derrière.
« Alors, Quetal, lui dit son maître, dansons pour réjouir les seigneurs notaires et sa divine fille. »
Ciccio fit claquer ses doigts en manière de castagnette et se mit à danser une saltarelle romantique à l'usage de la chèvre jaune. Tantôt il prenait Guetta par la taille comme une femme, tantôt il la soulevait d'une main pour l'empêcher de choir sur ses pieds de devant, puis il tournait autour de sa danseuse et faisait les passes et gambades de la saltarelle. La belle Angelica commença par rire de tout son cœur, et l'envie de danser la gagnant, elle courut chercher son tambour de basque. On dansa la saltarelle à 3. Ciccio déploya ses jarrets et mit des ailes à ses talons pour s'élever à 2 coudées au-dessus du sol, quand il eut en face de lui 2 danseuses à la fois. Il voltigeait de l'une à l'autre, animant la pauvre Eta du geste et de la voix, et poursuivant ensuite la jeune fille qui lui échappait en faisant des pirouettes. Tous 3, observant le crescendo d'usage, doublaient la vitesse du rythme et s'excitaient réciproquement. Pendant ce temps-là, Master André, qui prenait plaisir à avoir le rare talent de la chèvre jaune et le contentement de sa fille, s'était adouci peu à peu. Le sourire avait remplacé sur sa large face l'expression du courroux. Il commençait à fredonner tout bas en sautillant d'un pied sur l'autre. Enfin, l'enthousiasme lui montant à la gorge, il se souvint du beau temps de sa jeunesse et se lança dans le tourbillon de la saltarelle. À peine eut-il fait 4 passes que son gros corps se fondit en eau. Mais il le tint ferme jusqu'au bout et ne s'arrêta qu'au moment où tous les danseurs, épuisés de fatigue, se couchèrent sur le sable pour se reposer.
« Par Bacchus ! » s'écria le notaire, « je ne savais point que j'eusse les jambes si robustes. Il y a 20 ans que je n'ai pas fait tant de besogne, mais Dieu merci, on n'a pas encore perdu sa vigueur. »« T'avais raison, Celcio. » « Ta chèvre est un prodige, elle danse comme une blanchisseuse de San Nicolo. Ma cuisinière va te servir un verre de vin. »«
Combien veux-tu me vendre ta chèvre ?» demanda la jeune fille.
« Elle n'est pas à vendre, » répondit Ciccio.
« Je t'en offre 10 ducats. Non, elle n'est pas à vendre. »«
15 ducats. Signorina, je vous amènerai demain de jeunes chevreaux parmi lesquels vous pourrez choisir. Mais c'est que j'ai un que je veux et non une autre. Ah non, je ne la donnerai pas pour son poids d'or, ni pour 12 acres de terre, ni même pour le bâtiment de l'hôpital. Mais puisque votre seigneurie honore Geta de son amitié, je viendrai chaque matin vous faire une visite, et je vous montrerai bien autre chose que la Santarelle, si votre papa veut le permettre.
« Bah, viens tant que tu voudras, mon garçon, répondit le père, car ta chef m'a mise en joie, et je vois qu'elle est plus savante que mes clercs. »
La jeune fille adressa au petit chevrier un regard plein de malice pour le féliciter d'avoir si bien gagné le cœur de Master André. Ciccio but le vin que lui servit la cuisinière, et après avoir salué poliment la compagnie, il appela ses chèvres et sortit d'un pas nonchalant. Il n'y a point d'être plus passionné que le Sicilien. Sa passion peut le conduire en quelques heures jusqu'à la folie, et cependant, il cache le serpent qui le ronge sous une triple cuirasse de dissimulation, comme si l'aveu de son trouble devait conduire aux galères. Quand il eut quitté le notaire et sa fille, Ciccio parcourut la ville et porta son lait à ses pratiques, en recueillant les nouvelles du jour et causant avec les chambrières d'un ton dégagé. Vers 10 heures, sa tournée étant achevée, il se composa un maintien diplomatique pour passer devant le factionnaire de la porte d'Ortigia et prit le chemin de son village. Mais lorsqu'il fut seul avec son troupeau dans le désert de marbre du quartier de Néapolis, il leva ses bras en l'air et poussa des cris déchirants. « Misérable que je suis, dit-il, mais qu'avais-je besoin de suivre ce damné notaire et de voir cette fille plus belle que la façade d'un temple? Ô Saint-François, Saint-Timoléon, secourez-moi, éteignez le feu qui me brûle. Adieu la paix de mon âme. » Ma gaieté, mon repos, ma vie paisible. Aux ruines de la mourante Syracuse, contemplez mon désespoir. L'amour, comme un impitoyable sarrasin, s'est glissé dans mon cœur et porte la flamme et le fer dans tous les coins. Affreux ravage, accident lamentable, qu'on me jette sur la tête un de ces blocs de pierre. Oh, Ciccio, pauvre Ciccio, te voilà dans l'enfer. Enlèveras-tu ta maîtresse pour la conduire dans ta cabane et la faire coucher avec son linge fin sur une botte de paille? Mais quel curé voudra jamais bénir un époux en guenille? Verras-tu celle que tu adores se marier avec un autre? Mais meurs plutôt 1000 fois avant que ce jour sanglant se lève. Qu'un tremblement de terre t'engloutisse en même temps que le notaire, sa fille et Syracuse entière. » Deux laveuses qui passaient le long du grand aqueduc entendirent les cris et les imprécations du pauvre Ciccio.
« Oh, c'est un amoureux, dit l'une d'elles, et sa demi-folie le travaille. N'approchons pas, son mal est contagieux. »
Les deux laveuses dirigèrent du côté de Ciccio l'index et le petit doigt de la main gauche afin de chasser la mauvaise influence.
« Que la peste d'amour lui soit douce, » dirent-elles ensuite. « C'est un joli garçon. »
Ciccio, qui entendit des voix, reprit aussitôt sa contenance diplomatique et renfonçant la douleur dans les replis cachés de son cœur, il se rendit au village de Floridia. Le lendemain et les jours suivants, le petit chevrier ne manqua pas de revenir à 7 heures du matin chez le notaire, et jamais on n'eût deviné qu'il fût capable d'adresser des discours pathétiques aux objets inanimés, tant il paraissait maître de lui-même. Geta déploya son savoir et ses grâces en sautant dans un cerceau
en désignant la plus belle personne de la compagnie, le plus riche seigneur ou la servante la plus paresseuse, au grand divertissement de toute la maison de Master André. Elle marqua même l'heure qui sonnait à la pendule en frappant la terre de son pied droit, si bien que Ciccio aurait pu se faire passer pour un sorcier. Quand le répertoire des tours et gentillesses était épuisé, on y revenait avec un plaisir toujours nouveau, et à la fin de chaque séance, la belle Angelica donnait une récompense au petit chevrier en le priant de ramener le lendemain la chèvre merveilleuse. Un jour que Ciccio arriva chez Mastandré plus tôt qu'à l'ordinaire, il trouva la jeune fille assise sous le vieux myrte. Sans doute, ce tête-à-tête n'était pas l'effet du hasard seul, et les dialogues muets avaient préparé l'occasion, car Ciccio ne parut pas étonné de cette rencontre. Il courut tout droit à sa maîtresse, et lui dit avec un accent plein d'énergie, « Calcia, un mot de votre bouche pour confirmer ce que m'ont dit vos yeux. »« Mais 100 mots ne seraient pas assez, » répondit la jeune fille. « Mes yeux n'ont point menti, je suis à toi. »« Mais mes haillons, ma misère, mon ignorance, mon vil métier. »« Mais tes haillons, je ne les vois pas. Mire-toi dans mon âme et... » Tu te verras avec le manteau d'Alexandre et la couronne de César. À quoi donc penses-tu? Je suis assis sur une chaise de paille et tu me parais monter sur un trône d'ivoire. Mais non, ce n'est point un vil métier que le tien. De grands hommes ont mené leurs chèvres aux champs le temps de nos pères. Ton ignorance, dis-tu? Oh, ne t'en embarrasse pas. Je t'apprendrai à lire quand tu seras mon mari. Je te peignerai les cheveux, je te donnerai un habit noir, une cravate rouge et un pantalon de nankin. Qu'y a-t-il entre nous? Oh, la volonté de Mastandré, rien de plus. Reculerons-nous devant un seul obstacle? Tu as une mère, eh bien dis-lui de venir demander ma main. Nous saurons par là jusqu'où vont les difficultés. Mais comme on pose une barrière, je monterai sur les toits. Une montagne, mais je m'éleverai par-dessus les nuages. Je te le répète, je suis à toi. S'il n'y a pas d'autre ressource, je te suivrai comme ta chèvre jaune, car tu m'as apprivoisé aussi bien qu'elle. Mais nous n'en sommes pas là. Voici mon père qui vient. Ne bouge pas et garde notre secret. » Tandis que sa maîtresse débitait cette tirade avec une pédulance passionnée, Ciccio eut merveilleusement représenté la figure du jeune David triomphant, car au fond de son cœur sonnait le sistre à l'éclairon. Au dernier mot prononcé par Angelica, il reprit sa mine impassible et se retourna pour saluer Master André. Quand la chèvre jaune lui donnait sa représentation quotidienne, la jeune fille cueillit une petite branche de myrte dont elle forma une couronne et, reconduisant Ciccio jusqu'à la porte de la rue, « Ne parle plus, lui dit-elle, de misère et de vil métier. Reconnais à ce signe ce que tu es dans ma pensée. » Angelica déposa la couronne de myrte sur la tête de son amant et rentra dans la maison en courant. De retour à son village, le petit chevrier employa tous les embâches et précautions imaginables pour raconter à sa mère ce qui venait de se passer. Donia Barbara n'était pas sortie 4 fois de ses montagnes pour descendre à Syracuse. Elle n'avait pas une idée nette de ce qu'on fait dans une ville. Les rares pièces de monnaie qu'elle avait maniées en sa vie étaient toujours venues de cet amas de maisons qu'on apercevait au loin dans la plaine, en sorte que, dans son esprit, tout citadin était riche en naissant, mais facile à duper puisqu'il était assez fou pour donner son argent en échange d'un peu de lait. Tout montagnard, au contraire, était supérieur aux autres hommes et assuré d'aller en paradis. Quant aux intendants civils, gouverneurs, juges et fonctionnaires envoyés de Naples, c'étaient des Carthaginois contre lesquels la révolte était légitime.
« Mon fils, dit la vieille Alciccio, s'il est vrai que ta maîtresse soit aussi sage que belle, je puis consentir à demander sa main à ce notaire que tu as sauvé à la nage. Mais j'exige que ta femme te suive dans la montagne où tu demeures, comme le doit une épouse honnête et fidèle. »
« Ah, non, pour l'amour de Dieu, répondit Ciccio, n'allez pas imposer les conditions. Il y aura bien assez d'obstacles à mon bonheur. Faites seulement que je me marie et laissez-moi ensuite le soin d'emmener ma femme où il me plaira. »
« Ne crains rien, reprit la mère, je saurai m'y prendre avec l'habileté nécessaire. Tu es beau, la jeune fille t'aime, au bas le plus difficile est fait. »
Le lendemain, Donna Barbara, qui ne mettait jamais de chaussures, tira d'une armoire, pour cette occasion solennelle, une paire de demi-bottes qui lui venait de son défunt mari. C'était une façon recherchée de couvrir la moitié de ses jambes. Quelques loques déchirées qui descendaient à peine jusqu'aux genoux lui tenaient lieu de robe. Un morceau de serge verte enveloppait à peu près la poitrine ainsi que les épaules de la vieille montagnarde. Elle planta sur sa tête un chapeau d'homme. Son bras nu et brûlé par le soleil fut armé d'un bâton de chêne vert et dans cet équipage presque masculin, Donna Barbara partit pour la ville accompagnée de son fils. Les gens qu'elle rencontra sur son chemin ne firent aucune attention à son accoutrement, car la misère est chose sainte et respectable en Sicile. Le soldat qui montait la garde à la porte d'Ortigia se permit un léger sourire, mais la vieille lui lança un regard si terrible et si fier qu'il baissa les yeux. Ciccio, ayant indiqué à sa mère la maison de Mastandré, parti, suivi de ses chèvres, pour distribuer son lait en attendant la fin de la conférence. La vieille montagnarde traversa la cour et vint frapper à la porte de la cuisine. Une servante sortit sa tête par une lucarne et, voyant une personne mal vêtue, prit Donna Barbara pour une mendiante et ne répondit point. Au bout d'une minute, la vieille frappa de son bâton contre la porte en criant d'une voix sinistre « Est-ce la mort ou le sommeil qui règne ici ?»«
Bonne femme, dit la servante, point de malédiction, s'il vous plaît. Vous pourriez attirer sur nous quelque accident. Allez en paix, on vous donnera du pain un autre jour. »«
Accident sur vous ?» répondit la vieille. Je ne demande point l'aumône, fille insolente. Appelez votre patron et dites-lui que je viens du Mont Rosso pour lui parler d'affaires de conséquence. »
La cuisinière, subjuguée par le ton impérieux de la montagnarde, courut chercher son patron et Mastandré arriva les mains dans les poches et le cure-dent à la bouche.